I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 24.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 24. 1 Jean chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et notre sujet ce matin est le suivant. Demeurer en trois aspects. Et c'est là ce que l'apôtre Jean nous montre dans ce texte. Il y a trois aspects essentiels de la vie chrétienne, de l'expérience chrétienne, qui apparaissent dans ces cinq prochains versets. Et le mot-clé, ce terme « demeurer » apparaît pas moins de 6 fois dans ces versets. Demeurer avec une certaine personne dans un certain endroit. Ainsi, nous voyons ce thème qui est là dans ces 5 versets que nous allons considérer à partir du verset 24. D'abord, mon premier point sera ce corps de vérité. Nous avons vu ceci auparavant. Dans les versets précédents, ce terme « demeurer » apparaît 4 fois et maintenant ceci s'intensifie et sera utilisé encore plus souvent. C'est un terme favori de l'apôtre Jean. Ici, la plupart des « demeurer » sont concentrés dans ce chapitre et il y a un sens particulier à ce terme. D'abord, ce corps, cet ensemble de vérités. Nous avons considéré ceci auparavant, mais il y a à l'esprit de Jean un ensemble de doctrines fondamentales qu'il peut appeler la vérité. Quand il dit la vérité, il ne veut pas dire chaque parole dans la Bible, mais quelque chose que vous pouvez garder à l'esprit à tout moment. Un ensemble de vérités, les vérités essentielles, les doctrines essentielles de la foi. J'ai suggéré la semaine dernière, par exemple, que si les gens lisent un livre tel que celui de Thomas Watson, le puritain, Un corps de divinité, ils ont là un résumé parfait de toutes les doctrines de la foi chrétienne qui sont essentielles et qui sont répétées tant de fois dans le Nouveau Testament et qui sont un fondement solide que personne ne peut comprendre de la mauvaise manière. Il n'y a pas de confusion en cela, ce sont les choses essentielles de la foi. Quand l'apôtre Jean parle de demeurer dans la vérité, ce qu'il veut dire c'est comprendre les choses fondamentales de la foi. Et nous avons vu que ceci est très important. Dans notre dernière étude, nous avons considéré que ceci est très important pour interpréter la parole de Dieu. Et l'ancienne expression que nous avons vu, l'analogie de la foi. Ainsi, si vous voulez interpréter tout verset dans la parole de Dieu, toute doctrine que vous pensez comprendre ou voir dans les versets de la parole de Dieu, vous comparez ces versets et vous testez ces versets, vous les comparez à toutes les doctrines de la foi, les doctrines de base de la foi, les doctrines fondamentales, cet ensemble de vérités. Et chaque chrétien devrait les connaître. Et nous devrions pouvoir les dire facilement. C'est précieux pour nous, c'est important que de savoir que Christ a souffert, qu'il est mort pour mourir à la place de ses enfants, à la croix du calvaire, et que nous nous confions en ceci uniquement. C'est important de savoir que Christ a été incarné et la chute de l'homme et Dieu qui est parfait, mais certaines personnes ne savent pas plus que les choses de base. Jésus est mort à la croix et je me confie en lui. Certains chrétiens semblent passer toute leur vie sur le minimum. Non, le Nouveau Testament dit vous devez connaître plus que ça, vous devez connaître toutes les doctrines fondamentales parfaitement. Et ce passage nous montre pourquoi et comment pour pouvoir marcher en tant que chrétien. Ce n'est pas dire que vous devez connaître par cœur une confession de foi et toute la confession de foi de Savoie ou la confession de foi baptiste par cœur, non, mais vous devez connaître les choses fondamentales. Ainsi, nous allons considérer d'abord cet ensemble de vérités, ce corps de vérités. que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Et c'est mentionné au verset 21, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité. » Et Jean a à l'esprit ici les choses fondamentales, la vérité, comme nous l'avons prouvé la semaine dernière. Mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité, ce corps de doctrine fondamentale qui est la foi chrétienne. Et c'est là ce qu'il souligne ici. Nous devrions connaître ces choses et les avoir à l'esprit. Bien sûr, nous devons comprendre et nous comprenons ces choses à la conversion par l'illumination que nous donne le Seigneur, cette onction en grec au verset 20 à laquelle l'apôtre Jean se réfère dans ce passage également. C'est dès le début de l'évangile au verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous, ce premier demeure dans notre passage. Ce que vous avez entendu dès le commencement, depuis la première fois où vous avez entendu l'évangile, depuis la première fois où l'évangile a été prêché par Christ, l'évangile de la rémission des péchés, de la repentance du péché, prêché par les apôtres depuis le jour de la Pentecôte et la première fois où vous, individuellement, vous avez entendu l'évangile. Il y a eu cette vérité, cet ensemble de vérités qui a été donné, qui ne change pas. Les apôtres, les pasteurs après cela n'ont rien ajouté, n'ont rien développé. Ceci a été donné par Dieu depuis les premières années même, c'est dès le commencement et ceci ne change pas, c'est immuable. C'est donné par Dieu, révélé par Dieu, ce corps de vérité, cet ensemble de vérité. Ce n'est pas comme une compréhension humaine qui change constamment et qui se développe constamment. Certaines choses changent, certaines choses sont gardées, mais il y a de grands changements dans la compréhension humaine ou dans les théories politiques. Si vous adhériez à un parti politique, si vous lisez un livre concernant ce parti d'il y a 100 ans, ou même 50 ans, vous dites « Oh, les idées ont changé dramatiquement et énormément. » Les choses ont été changées, certaines choses ont complètement changé, même à 180 degrés, mais la vérité n'est pas ainsi, elle est immuable. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous, cet ensemble de vérités révélées, qu'il demeure en vous. Ainsi, nous considérons certaines de ces choses. Ces choses doivent demeurer, vivre en vous, à votre esprit, non pas au fond de votre esprit, à l'arrière de votre esprit. Mais c'est un défi pour chacun d'entre nous. Toutes ces choses qui seront mentionnées ici comme devant demeurer, dépendent l'une de l'autre. Nous demeurons en Christ, cette union avec Christ. Et ceci dépend du fait de garder à l'esprit cet ensemble de vérités. Nous allons parler de l'onction à nouveau, comme nous avons déjà entendu parler de ces choses. C'est quelque chose que Dieu donne, c'est un don de Dieu, l'illumination du Saint-Esprit. Mais pour continuellement avoir la joie de ces choses, pour qu'elles opèrent dans votre esprit, vous devez demeurer dans la vérité, garder la vérité à l'esprit. Vous devez être tout près de Christ. Tous ces demeurés vont être liés. Si vous en enlevez un en pensant que vous allez pouvoir survivre dans votre vie chrétienne sur uniquement la croix du calvaire, ma confiance en Christ, et c'est tout, alors votre communion avec Christ va diminuer et votre onction sera obscurcie et vous serez plein de doutes. Et alors ce ne sera plus un instinct pour vous que de croire, de savoir que c'est là la vérité et vous allez être plein de doutes à moins que vous ne gardiez ces choses essentielles, ces trois choses essentielles qui dépendent l'une de l'autre et qui doivent être en vie dans votre expérience chrétienne. Sinon, vous perdez tous les bienfaits de ces choses. C'est là le génie de ce que l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, nous donne ici dans ce passage. D'abord, au verset 24, nous parlons de ce corps de vérité, cet ensemble de vérité. Gardez ces choses à l'esprit. C'est la lentille par laquelle le chrétien voit toutes choses. Vous voyez toutes choses par ces doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Nous vivons dans une société libérale et l'essence même du libéralisme dans la société où nous réécrivons toutes les lois morales, ceci est basé sur un fondement qui est l'optimisme par rapport à la nature humaine. Les idées philosophiques politiques, sociales, libérales fondent toutes leurs idées par rapport à la société, à la criminologie. Tout est fondé sur ce fondement de l'optimisme par rapport à la nature humaine. Ils croient que les êtres humains sont bons dans l'ensemble. Ainsi, vous pouvez toujours appeler les gens à raisonner. Et vous pouvez amener les gens dans la bonne direction. C'est pour cela que le libéralisme est si doux dans beaucoup de sens, au lieu d'être ferme. Il y a cet optimisme partout. Je donne ceci comme un exemple. Si vous voyez la vie comme la Bible la voit, alors vous ne pouvez pas voir ces choses ainsi parce que vous savez que c'est une race humaine qui a chuté loin de Dieu. Les gens sont pleins de péchés, les gens sont mauvais. Au fond même, dans leur cœur, nous devons nous souvenir de cela. Il doit y avoir des lois, des punitions, des condamnations, un jugement. Et nous devons nous garder fermement, tout près des critères moraux. Ainsi, vous voyez que ceci affecte toute votre manière de voir les choses, même dans la société. Si vous ôtez cette doctrine chrétienne, cet ensemble de vérités, alors vous voyez les choses de la mauvaise manière, toutes ces choses de la société. C'est un exemple ainsi que de connaître vos doctrines. C'est là la lentille par laquelle vous allez tout comprendre, non seulement interpréter l'Écriture, mais la société autour de vous et tout ce qui s'est passé autour de vous et pour vous dans votre vie. C'est si essentiel, gardez ces choses à l'esprit. Et c'est également, en tant que chrétien, votre perspective sur la vie, sur le monde. Par exemple, si vous êtes dans la détresse, si vous êtes dans le besoin et les choses vont de travers dans votre vie, peut-être que dans ma vie j'ai pris ce chemin ou cet autre chemin, j'ai pris cette décision. Vous voyez les choses à la lumière de la doctrine chrétienne et Dieu est souverain au-dessus de toute chose. Et sa providence, il va vous bénir. Ce qui est important, c'est votre salut, bien sûr, votre sanctification et de le servir lui, de lui plaire et de regarder à lui en toute chose. Vous ne vous attendez pas à de bonnes choses de ce monde, parce que si ce monde vous donne toutes choses et vous gâte, alors ceci va ruiner et détruire votre marche chrétienne, parce que vous allez vous confier dans ce monde. Ainsi, vous regardez au Seigneur, vous confiez en lui, dans sa providence. Il prend soin de vous, et ce qu'il vous donne, ce qu'il vous ôte, vous vous confiez en lui. Mais vos doctrines chrétiennes vous donnent une bonne perspective sur le monde pour juger, pour discerner toutes choses. Bien sûr, ceci va vous protéger également, vous garder dans des choses qui sont bonnes. Et si les hérésies viennent, les mauvaises pratiques, alors vous connaissez les doctrines essentielles de la foi. Ceci va vous garder sur le bon chemin. Et vous allez apprécier encore plus le Seigneur. Vous allez réaliser encore plus ce que vous lui devez. Oui, vous l'aimez pour la croix du calvaire, pour sa mort expiatoire, mais également pour toutes les doctrines, pour ce système merveilleux de toutes ces doctrines chrétiennes fondamentales. Vous avez une liste de ces doctrines. Oh, si vous en avez besoin, à la fin de votre Bible, vous avez un feuillet avec toutes ces doctrines et vous appréciez Dieu tant ses chemins, ses desseins et vous l'aimez toujours plus et encore plus pour ses vérités, pour ses grandes explications de son caractère, de ses attributs, de ses chemins, parce qu'il pourvoit pour vous. Et ensuite, ces choses forment votre esprit plus que toute autre chose. Je me souviens de l'histoire que j'ai entendue d'un policier qui était un chef de police dans un endroit en particulier et il s'est converti, non pas jeune, mais dans la trentaine, quarantaine. Et son témoignage était que de comprendre les doctrines de la parole de Dieu et ce système de doctrine du christianisme l'a enseigné à réfléchir. Et il a réalisé, en regardant en arrière, que dans sa carrière, il a été tant aidé et modelé par cette capacité à réfléchir. Et ceci lui a été donné par la parole de Dieu. Et c'est vrai, parce que ces choses sont solides, ne changent pas et sont liées l'une à l'autre d'une manière merveilleuse. L'une des doctrines repose sur une autre, etc. Et elle vous enseigne de votre esprit à avoir une structure logique dans votre pensée. Même humainement parlant, ces choses sont profondes et vous modèlent et vous forment et forment vos pensées. Et une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce point en particulier, c'est que d'avoir ces choses à l'esprit et de les garder en vie et d'avoir cette conscience de toutes ces doctrines fondamentales de la foi, ceci meuble votre maison également. Cette grande illustration de temps en temps dans le Nouveau Testament, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et bien sûr, ces paroles de 2 Corinthiens chapitre 5, car nous savons que si notre tabernacle terrestre, c'est vous, votre corps, notre tente terrestre, votre volonté, votre esprit, nous savons que si notre tente terrestre de ce tabernacle, de cette tente, de ce corps est dissous, alors nous avons un temple de Dieu qui n'est pas formé avec nos mains. Et l'apôtre Paul ici parle d'être revêtu de cette maison de votre âme que vous avez sur cette terre en tant que personne sauvée, qui est préservée dans la gloire éternelle. Quels sont les meubles dans votre maison ? Vous voulez que Christ soit votre invité par son esprit pour vivre dans votre maison, dans votre âme, pour être en vous. Quels sont les meubles dans votre maison ? Si vous gardez en vie à l'esprit les doctrines essentielles de la foi, alors vous avez des meubles pour cette maison de l'âme. Et ceci est digne du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Votre esprit est meublé de la bonne manière et de manière pure, merveilleuse et confortable. C'est là l'illustration, l'image du Nouveau Testament. Ainsi, nous avons besoin des doctrines. Lisez ce livre et d'autres livres semblables, et ayez une connaissance des doctrines. C'est là ce que l'apôtre Jean veut dire quand il dit la vérité. Cet ensemble de vérités essentielles, fondamentales, qui fait une telle différence dans nos vies. Et ensuite, il continue. Et c'est là un deuxième point. C'est la communion avec Christ, au verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Ce corps de vérité, cet ensemble de vérité, il répète ceci pour que ce soit clair à notre esprit. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, ces doctrines du salut et les choses essentielles de la foi, comme nous les avons entendues, si elles demeurent en vous, et soulignez que ceci est lié à ce qui suit, si elles demeurent en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils. Et ce terme traduit par « vous continuerez avec le Fils », c'est le même terme « demeurer avec le Fils ». Et j'aimerais souligner que ce « demeurer dans le Fils de Dieu », ce n'est pas simplement se référer à persévérer. Si les doctrines demeurent en vous, alors vous allez persévérer. Non, ce n'est pas simplement cela. Ce « demeurer dans le Fils » va plus loin. Ceci parle de la communion, de cette proximité avec Christ. Si les doctrines demeurent en vous, c'est ce terme « demeurer » également. Vous demeurerez aussi dans le Fils. Vous vivrez dans le Fils. Que de demeurer dans le Fils, c'est plus que simplement lui être fidèle. C'est être près de lui. C'est là que je vis. C'est là où je demeure. Oui, cette notion d'être permanent, et là, c'est ma demeure permanente, oui, mais c'est plus, c'est là ma demeure particulière, je suis près de cette famille, je suis un membre de cette famille, je suis le propriétaire de cette maison, c'est ma maison, je la connais, j'ai mis des meubles dans cette maison, je suis intimement connecté à cette maison, cette union, cette proximité. Si ces doctrines sont à votre esprit, ceci va vous aider puissamment à être près de Christ, qui est mon prochain point. Vous demeurerez aussi dans le Fils, vous vivrez dans le Fils. Et l'apôtre Jean ajoute, et dans le Père. Ceci suit d'une manière naturelle parce que le Fils est l'image exprimée du Père. Si vous avez cette communion avec le Fils, alors vous pouvez être sûr d'avoir la communion avec le Père. Si vous avez la communion avec le Fils, C'est la même chose que d'avoir la communion avec le Père. Vous ne pouvez pas connaître le Père. Vous le connaissez parce que vous connaissez le Fils. Et le Fils est l'image exprimée du Père, la gloire du Père. Ainsi, l'apôtre Jean rajoute, « Et dans le Père, vous demeurerez aussi dans le Fils. » Chers amis, la communion avec le Fils, est-ce une sensation, une émotion? Non. Est-ce que vous le ressentez, son toucher peut-être? Non. Vous ne pouvez pas le ressentir. Est-ce que l'air va bouger quand vous venez à lui dans la prière? Est-ce que vous aurez une sensation dans votre colonne vertébrale? Non. Est-ce que vous aurez des sentiments dans vos membres? Non. Rien de cela. Parfois, nous utilisons une terminologie qui est plutôt dangereuse. Certains auteurs chrétiens parlent de communion intime. C'est un terme très dangereux en certains aspects, parce que cela signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certaines personnes, cela signifie « Oh, j'aurai une sensation, un toucher, une sensation de la présence du Seigneur. » Les charismatiques chantent par rapport à ces choses et ils répètent toujours à nouveau ces choses. « Oh, je peux ressentir la gloire du Seigneur !» Et ils sautent en haut, en bas. Mais ils ne ressentent rien de plus que des milliers de jeunes dans un concert de musique pop. Non, c'est un non-sens, c'est un mythe. Certaines personnes écrivent cela, mais ce n'est pas très sage. Ressentir la présence de Dieu, ceci peut nous faire errer. Nous ne devrions pas utiliser ces termes. Vous ne pouvez pas ressentir la présence de Dieu en soi, parce que ceci, c'est du mysticisme. Le toucher de Dieu, ceci, c'est du mysticisme. Ceci appartient aux religions orientales et pas au christianisme. Notre communion avec Dieu est uniquement par la foi. Alors, dans quel sens vous ressentez quelque chose? Je vais expliquer cela. Il y a une illustration très ancienne qui remonte au temps de la Réforme et qui est celle-ci. Dieu est comme le soleil. Vous ne pouvez pas toucher le soleil. Nous sommes séparés du soleil et c'est une distance très grande. Et quand nous ressentons son influence, oh, j'utilise un langage ordinaire. Quand nous ressentons les rayons du soleil, sa puissance a été grandement diluée, si vous voulez, pour que nous puissions vivre. Et pour nous, c'est une chaleur que nous ressentons. Mais si vous approchiez du soleil, vous seriez détruit bien avant de vous en approcher. Même à notre distance, les rayons du soleil qui viennent par l'atmosphère, vous ne pouvez pas regarder dans le soleil directement, dans ces rayons de soleil, parce que c'est trop puissant. Ainsi, vous ne pouvez pas toucher Dieu, mais vous connaissez le soleil par son influence, par ses rayons, par son image qui est bien diminuée pour que ce soit sûr pour nous, pour que nous puissions ressentir le soleil, mais sans être en danger. Nous ne connaissons rien de sa puissance, de son éclat. De même pour Dieu, je pense que c'est une bonne illustration, d'une certaine manière. Comme nous ressentons le soleil par son influence, par sa chaleur, par ses rayons, de même pour le Seigneur, nous le connaissons par son influence, par sa grâce, par son image dans les Écritures. Parce que vous ne pouvez pas le regarder, vous ne pouvez pas voir Christ. Ainsi, nous le percevons toujours par la foi. Et c'est là que vos sentiments peuvent être bénis. Vous pouvez ressentir à certains moments le Seigneur par ces moments où nous ressentons cette certitude, cette assurance dans notre cœur, dans ces temps de grande certitude de sa puissance, de sa bonté. Et c'est comme si vous pourriez ressentir sa protection, sa proximité. Mais ce n'est pas réellement quelque chose que vous ressentez, c'est par la foi. Parce que le Seigneur vous a donné une perception profonde de sa bonté envers vous et de votre salut. Et vous ressentez cette certitude, cette assurance dans votre cœur. De cette manière-là, oui, Nous disons que nous ressentons la présence du Seigneur, mais ce n'est pas littéral ou physique. À nouveau, peut-être que vous avez, et j'espère que jour après jour, vous ressentez ces choses, vous pouvez avoir ces réponses extraordinaires à vos prières, ces grandes réponses à vos prières, ces petites réponses à vos prières. Il n'y a pas de petites réponses aux prières, dans un certain sens, mais vous êtes reconnaissant, et vous le louez, et vous êtes touché, vous ressentez son amour, sa fidélité. Et alors, vous lisez peut-être dans la parole de Dieu, et vous vous dites, c'est si vrai, c'est une description si parfaite de cette situation, du monde autour de moi, de mon expérience, du Seigneur. Ceci est si clair et vous ressentez la véracité de ce que vous lisez. Et vous réfléchissez, vous méditez à ces choses. Et il y a ce sens d'assurance, de respect profond pour la parole de Dieu en vous. Et c'est une autre manière par laquelle vous ressentez la proximité de Christ. C'est l'expérience du chrétien si souvent quand la parole de Dieu, nous l'expérimentons. Et l'amour de Dieu également est déversé dans nos cœurs. Peut-être dans ces moments de repentance où nous sommes convaincus de notre péché et nous nous repentons d'un péché, de quelque chose que nous avons fait peut-être pendant un certain temps et qui est péché. Et à présent, la conviction est venue dans notre cœur, nous nous repentons devant le Seigneur. Et nous apprécions tant son amour et son pardon d'une manière si particulière, si profonde. Ce sont là les manières précieuses par lesquelles Christ est proche de vous, est réel pour vous, mais vous ne pouvez pas le toucher physiquement et vous n'avez pas des sensations physiques. Et dans d'autres situations, et j'espère que vous avez cette expérience également, peut-être vous aspirez réellement au ciel, vous avez été comme insouciant par rapport à la vie éternelle. Un jour, quand je mourrai, je n'ai pas besoin d'avoir peur, j'irai au ciel, mais vous ne pensez pas beaucoup à ces choses. Et le jour vient où ces choses deviennent réelles et profondément vous aspirez au ciel et vous aspirez à cette gloire éternelle. Et c'est là une manière par laquelle vous ressentez la bonté de Dieu, l'amour de Christ, la proximité du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour vous. Et ensuite, vous le ressentez parfois dans votre grand besoin. Vous êtes inquiet, inquiet et inquiet par rapport à quelque chose. Et ensuite, au lieu d'être si inquiet par rapport à cette situation, vous réalisez votre besoin de l'aide de Dieu. Quelque chose s'est passé et vous ressentez que vous êtes sans espoir sans lui. Vous devez venir à lui et invoquer son nom et lui seul peut vous aider. Et avec ce besoin profond, vous ressentez également cette confiance profonde en lui. Et en cela, vous ressentez quelque chose de la bonté, de la fidélité de Christ. Cette conscience tendre et attendrie également, j'ai déjà mentionné cela, cet amour envers lui également. C'est dans votre tête, et parfois ceci vient de manière tout particulière dans votre cœur, et vous devez l'adorer, le louer, et ceci va également dans l'autre sens. Si vous arrivez à l'heure, à l'église, et à partir du premier cantique, vous êtes de tout votre cœur dans la louange du Seigneur et votre amour est revivifié et vous ressentez sa puissance et sa bonté envers vous. Ne pensez pas à d'autre chose. De toutes ces manières-là, nous connaissons sa proximité. Mais ceci, c'est par la foi et j'espère que vous ressentez la différence. Ainsi, demeurez près de lui et recherchez cette proximité avec lui. Je me souviens des doctrines de la foi. Mais je ne veux pas être simplement froid comme un théologien froid, mais je veux la proximité à Christ également et toutes ces choses qui m'amènent un sens plus profond de son amour, de sa bonté envers moi. Venez plus près de lui, lisez la parole de Dieu, lisez par rapport à lui. Les chrétiens aiment lire les évangiles. Ils ne disent pas « Oh, dans ma lecture quotidienne, de la parole de Dieu. Je n'ai pas lu les évangiles pendant un certain temps, mais je les connais. » Non, les chrétiens disent « J'ai lu Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, j'ai lu des psaumes, j'ai lu les livres historiques. Je dois revenir à l'évangile. J'ai besoin de l'évangile. J'ai lu peut-être les évangiles des centaines de fois, 200 fois auparavant, mais Il n'y a rien de semblable à cela. Lire les évangiles dans ma méditation personnelle et me rappeler de toutes ses œuvres, nous le voyons, lui, dans l'évangile. Lisez par rapport à Christ. Oui, exprimez-lui votre amour, votre confiance en lui également. Soyez ouverts dans la lecture de sa parole. Je dis souvent ceci, je souligne cela. Pardonnez-moi de répéter cela. Quand vous lisez la parole de Dieu, posez-vous ces questions. Est-ce qu'il y a une doctrine dans ce passage pour moi? Est-ce qu'il y a une responsabilité pour moi, un devoir? Est-ce qu'il y a un péché sur lequel l'Écriture pointe son doigt et je dois me repentir? Est-ce qu'il y a une responsabilité que j'ai négligée, que j'ai oubliée? Est-ce qu'il y a une parole pour moi dans ce passage? Ceci est si précieux pour nous, c'est ainsi que nous demeurons en lui, que nous sommes près de lui. Il y a deux choses, ce corps de vérité, de doctrine, et mettre tous ses efforts pour rester près de lui. Et ce troisième point, je vais lire au verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Je suis presque réticent à passer du temps sur ce verset. Jean a mentionné l'Antichrist, la mondanité, les choses du monde qui sont un obstacle aux choses spirituelles et qui ôtent notre fidélité au Seigneur. En ces jours-là, ils avaient ceux qui niaient la réalité de Christ. Ils pensaient qu'il n'est pas venu réellement dans un corps humain, qu'il n'est pas réellement mort à la croix du calvaire, il n'est pas réellement ressuscité des morts, mais il était un être et un esprit, un fantôme, Dieu manifesté dans un esprit, dans une forme apparemment humaine, mais pas réelle. Et ainsi, ils mettent de côté l'expiation, ils mettent de côté la venue de Christ, qui est notre représentant dans le sang, dans la chair, et qui vit une vie sur cette terre pour prendre notre condamnation. C'est probablement ce à quoi Jean se réfère dans cette lettre plusieurs fois. De nos jours, il y a d'autres hérésies. Au temps des premiers chrétiens, après le jour de la Pentecôte, il y avait ces judaïsants juifs qui essayaient d'amener les chrétiens à se confier dans les cérémonies juives. Et ceci gâche tout. Mais il faut nous confier uniquement en Christ et en lui seul. De nos jours, nous avons le libéralisme théologique, nous avons l'Église catholique et toutes sortes d'hérésies sans fin qui mettent de côté les choses fondamentales de la foi. Il y a une église pas loin d'ici où le pasteur a pendant des années nié la mort expiatoire de Christ et récemment, il nie également la distinction des sexes et des genres. Il n'est plus du tout évangélique. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent, qui essayent de vous faire errer pour aller dans des fausses doctrines. Mais, au verset 27, c'est là mon troisième point. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Nous avons considéré l'onction auparavant. Je ne vais pas rappeler tout ce que nous avons dit, mais juste pour dire ceci. L'onction nous est donnée par Dieu. Cette réalisation de notre instinct même que l'évangile, que les doctrines sont vraies. Ceci nous est donné par Dieu et ceci demeure en nous. Mais ne pensez pas que cela signifie que c'est toujours actif en nous. Ceci peut perdre son éclat en nous, sa lumière en nous. Et nous pouvons perdre le réconfort, l'aide du Saint-Esprit. Parce que, si seulement j'avais le temps d'en parler, ces trois éléments dont nous avons parlé dépendent l'un de l'autre. Ces choses vous sont données. L'onction, l'illumination du Saint-Esprit, cette réalisation que ces choses sont vraies. Mais si vous ne gardez pas les doctrines en vie, à votre esprit, si vous ne restez pas tout près de Christ, l'onction va s'obscurcir. Et en conséquence, ceci va résulter dans des doutes. J'aurai des grands doutes et je ne crois plus et je ne suis plus certain que c'est là la vérité. Je ne suis plus certain que les doctrines de l'Évangile sont vraies, authentiques, et je suis plongée dans des doutes parce que mon onction s'est obscurcie. Pourquoi ? Parce que les deux autres piliers ont été négligés et mis de côté. Je ne me suis plus souvenue des doctrines. Réfléchissez souvent à ces doctrines. Louez Dieu pour cela et gardez-les à l'esprit. Restez tout près de Christ dans un sens spirituel. Et sinon, je vais perdre l'onction ou je ne vais plus avoir la joie dans cette onction qui est donnée par Dieu, qui ne me laisse pas, qui ne m'abandonne pas. Mais ces choses peuvent être obscurcies. Et alors, je n'ai plus cette joie dans ces choses. Pasteur, j'ai beaucoup de doutes. Qu'est-ce que je dois faire dans ce passage ? Souvenez-vous des doctrines et soyez tout près de Christ. Ceci va revivifier cette onction, cette conscience dans votre instant même de cette certitude que ces doctrines sont vraies. Ces trois choses, ces trois aspects dépendent l'un de l'autre. Et ces trois aspects sont précieux pour nous et ont tant de valeur. Ceci suffit ce matin. Je ne vais pas continuer plus loin, mais nous avons besoin de ce corps de vérité, cet ensemble de vérité et l'union avec Christ et l'onction pour rester en vie dans notre cœur, dans notre esprit.